Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ici, on écoute le monde changer et on regarde la France bouger, celle que vous construisez grâce à vos idées. Vous voulez faire garder votre chien ou votre chat, vous n'avez pas de solution. Elisabeth Assayag, on a trouvé une gratuite en plus pour vous. C'est papette.com et vous allez tout savoir. Vous êtes nombreux à rêver d'eau chaude, de lagons. On vous emmène plonger aujourd'hui sur Europe 1 pour découvrir les innovations qui révolutionne le secteur. Ce sera notre dossier du jour. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Soyez les bienvenus dans la France Bouge Academy. Ici, vous avez le pouvoir de nous ouvrir les yeux sur de nouveaux projets. Si vous aussi, vous avez une bonne idée, Elisabeth Assayag m'accompagne tous les jours. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Et nos experts sont au rendez-vous aussi. Bonjour Luc Le Sénécal.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Qui dirige Saint-James, bien sûr, et président du label des entreprises du patrimoine vivant. À vos côtés, Nicolas Cellier. Bonjour Nicolas.
Bonjour Raphaël.
Fondateur de Ring Capital. Et je vous présente en face de nous Kevin. Kevin Rodriguez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Kevin, vous avez 25 ans et vous êtes le cofondateur de Ça roule, Raoul.
C'est ça.
Ça fait 6 mois que votre idée est commercialisée. Elle est là pour nous aider finalement à faire vérifier par un professionnel que la voiture d'occasion qu'on a prévue d'acheter est bien conforme à ce qu'on nous a garanti. Une vraie bonne idée qui permet de rassurer les clients forcément. Vous allez nous dire comment votre projet est né et comment surtout vous envisagez de le développer. Vous avez 1 minute 30.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça roule Raoul, c'est né d'un constat très simple. Aujourd'hui, il y a près de 6 millions de transactions de véhicules d'occasion chaque année en France et près de plus de 10% d'entre elles sont considérées comme frauduleuses. Donc ça peut être de la fraude au kilométrage, un véhicule accidenté ou des vis cachés. Donc Ça roule Raoul propose un service d'accompagnement et de conseil à l'achat de véhicules d'occasion pour les particuliers. On mandate un inspecteur sur le lieu du rendez-vous lors de la visite préachat qui va inspecter le véhicule sur plus de 250 points de contrôle afin de rassurer l'acheteur sur le bien en question. Nos inspecteurs, en plus d'inspecter le véhicule, du coup, ils vont estimer les frais de remise en état du véhicule. Vous dire donc aujourd'hui vous aurez ça à prévoir, mais demain vous aurez telle et telle réparation
à faire.
C'est ça, sur le véhicule. Et en plus, ils vont négocier le prix du véhicule directement auprès du vendeur. Et c'est là où Ça roule Raoul se rémunère. Donc pour le client, c'est entièrement 1$ comme coût du service. En effet, un véhicule qui est par exemple affiché à 10 000 euros, si notre inspecteur arrive à le négocier à 9 500 euros, nous rémunérons à hauteur de 50% de ces 500 euros, donc de la prestation négociée.
Donc c'est quelque chose qui est tout bénéfice pour évidemment l'acheteur. Comment est-ce que vous sélectionnez vos inspecteurs ?
Alors, nos inspecteurs, on les sélectionne avec de l'expérience, donc c'est uniquement des professionnels du monde de l'automobile, donc ça peut être des mécaniciens, des carrossiers, agents de contrôle technique qui ont une expérience d'au moins 2 ans dans le secteur.
Alors voilà, on a terminé la minute 30. On va se tourner tout de suite vers les experts pour voir ce qu'ils en pensent. Luc et Nicolas, qu'est-ce que vous pensez de Ça roule, Raoul ?
C'est une bonne idée. Après, je n'ai pas tout à fait bien compris ce que vous apportiez de plus par rapport, parce que maintenant, le marché, vous l'avez signalé, le marché d'occasion est quand même relativement bien organisé. Qu'est-ce que vous apportez de plus ?
Alors, ce qu'on apporte, c'est vraiment le côté rassurance. Comme je le disais, il y a grosso modo, 1 véhicule sur 5 est considéré comme frauduleux aujourd'hui en France.
C'est-à-dire qu'on a trafiqué le kilométrage.
Par exemple,
mais quand vous parlez d'un véhicule sur 5, c'est un véhicule sur 5 vendu particuliers ou vendu entre professionnels ?
Entre particuliers ou auprès d'un professionnel. Donc on accompagne beaucoup de nos clients entre particuliers, mais également des particuliers qui veulent acheter un professionnel et qui veulent être rassurés lors de l'achat. Donc on les accompagne
Vous accompagnez aussi les professionnels ?
Alors non, on accompagne nos clients sur les particuliers.
D'accord.
Mais lorsqu'ils veulent acheter chez un marchand automobile, donc chez un professionnel.
Parce qu'il y a
également des
spécialistes de l'occasion aussi et qu'effectivement...
Vous allez tout vérifier.
Exactement.
Nicolas ?
Comment est-ce que vous assurez qu'il y a une convergence d'intérêts entre l'inspecteur et le client ? Parce que si l'inspecteur est rémunéré quand le client achète, il a intérêt à ce que le client achète et il n'est pas neutre, il n'a pas forcément intérêt à faire état de tous les défauts de la voiture parce que dans ce cas-là, il n'est pas rémunéré. Comment est-ce que vous assurez de cette convergence d'intérêts ?
Du coup, alors, à nos inspecteurs, on leur remet une application qui est une trame d'inspection du véhicule qui permet à l'inspecteur donc, de suivre toute une trame lors de l'inspection et qui ne laisse aucune place à la subjectivité. Grosso modo, notre but est d'envoyer 10 inspecteurs sur le même véhicule pour qu'on ait...
En théorie, 10 fois la même
chose.
Ça,
exactement. On l'a testé, ça fonctionne aujourd'hui. De toute façon, on a un œil sur chacun des rapports, donc on voit tout de suite sur les défauts du véhicule si le véhicule aurait dû ou non être conseillé.
Je vois bien que ça rassure l'acheteur, mais est-ce que statistiquement, depuis que vous avez créé votre concept, est-ce que ça crée une plus-value pour le vendeur de sa voiture par rapport à une cote Argus ou une cote normale? Est-ce que ça permet de vendre plus cher sa voiture, offrant des garanties?
Alors pour le vendeur, vendre plus cher, pas forcément, puisqu'on va chercher également à négocier le prix, mais on va chercher à négocier le prix juste. Mais par contre, ça les rassure énormément, puisque beaucoup, au final, on accompagne les acheteurs, mais les vendeurs sont accompagnés lors de cet échange. Et même les vendeurs, surtout les particuliers, ne s'y connaissent pas du tout. Et les professionnels, en revanche, eux, sont plutôt dans le voie d'un bon point, en se disant, alors ils sont accompagnés par un vrai professionnel, au moins je n'aurai pas de retour de mes clients me disant qu'il y avait X ou Y sur le véhicule.
Oui, vous pouvez très bien avoir acheté en toute confiance à un particulier un véhicule sans savoir que le véhicule a été accidenté, ça a été maquillé et vous n'êtes pas au courant. Donc effectivement, le passage est important. Nicolas Cellier.
Non, moi je me demande, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à faire des partenariats, soit avec des sites de petites annonces qui, en travaillant avec vous, pourraient offrir un service réassureur et augmenter leurs revenus, soit en amont avec des garages qui ont la compétence? Ça permettrait d'avoir des gens qui sont professionnels et à vous de leur apporter des clients, ou même à eux de vous apporter des clients, tout en ayant une réassurance parce que vous travaillez avec des professionnels.
Bien sûr, alors c'est exactement ce qu'on cible, les sites de petites annonces. Aujourd'hui, on a des garages partenaires avec qui on travaille, qui nous recommandent des annonces. On travaille aussi beaucoup avec des auto-écoles pour les jeunes permis qui cherchent leur premier véhicule d'occasion. Et généralement, c'est des petits budgets, donc c'est toutes leurs économies, ils ne veulent pas se faire avoir. On travaille beaucoup avec des auto-écoles qui nous envoient leurs jeunes permis. On vise cette communication-là.
6 mois d'existence, 6 mois de commercialisation. Aujourd'hui, combien de clients?
Alors, un peu plus de 70 inspections aujourd'hui réalisées.
Oui.
Pour à peu près, on est à 67 achats.
En Île-de-France uniquement?
En Île-de-France et on déborde sur les régions voisines pour l'instant.
Avec envie de vous ouvrir sur le reste du pays. Merci beaucoup Kevin.
Merci
d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Vous nous donnez évidemment de vos nouvelles. Europe 1. Et on reste ensemble. Vous partez peut-être en week-end ou en vacances. Vous ne pouvez pas emmener votre animal de compagnie. Et si pasbête.com était la solution? Elisabeth Assayek vous dit tout dans un instant sur Europe 1.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Vous avez peut-être un animal de compagnie, vous partez en week-end, eh bien, sachez qu'il existe une solution, Elisabeth, ça s'appelle pasbête.com et c'est une plateforme de garde d'animaux en France.
Oui, près d'un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie en France, et avoir un animal de compagnie, eh bien, c'est une responsabilité constante. Alors, vous partez quelques jours ou plusieurs heures, vous avez peut-être envie de le faire garder, Pasbête propose de faire garder vos compagnons gratuitement, dans les meilleures conditions possibles. Pas bête parce qu'aucun échange d'argent sur cette plateforme, mais des crédits. Des crédits qui ouvrent droit à différentes prestations. Il s'agit d'une monnaie interne qui permet une équité parfaite aux adhérents. Bonjour Salim Boulaïch.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Pasbête en 2018. Donc avec votre plateforme, si on sort quelques heures ou si on part une semaine, vous avez une solution pour garder nos animaux de compagnie et on a un retour sur la prestation.
Tout à fait.
Comment ça marche ?
Pasbête, c'est une plateforme collaborative de garde d'animaux entre particuliers. Comme vous l'avez bien souligné, ça fonctionne avec des crédits ou des points. Par exemple, si vous avez un chat et vous voulez le faire garder une durée de 3 jours, par exemple, il faut détenir 3 bébêtes.
Qu'est-ce que c'est les bébêtes?
La bébête, c'est la monnaie.
Exactement. C'est le système de points, c'est la monnaie. Et donc, une bébête coûte uniquement 2 euros et ça permet de financer une journée de garde pour un seul animal. Donc, dans votre cas, si on monnaie la chose, ça va vous coûter uniquement 6 euros pour les 3 jours.
Quand on sait que les chenilles, ça affiche parfois jusqu'à 15 euros par jour.
Même jusqu'à
même
25
plus.
Euros
ouais,
par jour, effectivement.
Ça dépend de l'endroit.
Et le concept, en fait, où vont ces bébêtes? Par exemple, si moi, je garde votre chat pour les 3 jours, je vais récupérer vos bébêtes et que je peux réutiliser par la suite pour mon propre chien, par exemple, et le faire garder 3 jours gratuitement.
Et je peux le garder si je n'ai pas d'animaux? Ou il y a des critères pour pouvoir garder les animaux?
Non, c'est vraiment la plateforme, elle est ouverte à toutes les personnes ayant des animaux ou pas, mais à condition qu'ils partagent notre vision, notre philosophie et nos valeurs surtout.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire l'amour de l'animal, le bien-être de l'animal en place vraiment au centre de notre démarche. Et puis, être avec un esprit solidaire et l'entraide.
Et comment le savez-vous, ça, puisque ça se passe tout se passe sur votre plateforme. Donc, y a-t-il des filtres ?
Alors, je n'ai pas tout dit. Pour les bébêtes, en fait, effectivement, ça permet de financer, mais ça nous permet aussi de veiller sur le bon fonctionnement de la plateforme, parce que tout est enregistré, il y a une traçabilité de toutes les actions. Et ça nous permet aussi, via des algorithmes, de ressortir des échanges un peu douteux, notamment des négociations, et ça, on a eu des cas. Mais lors de l'inscription de la personne, on demande qu'il nous communique des pièces justificatives afin de valider l'identité de nos adhérents. Et puis, on est amené parfois à effectuer des entretiens individuels.
Donc, comment ça marche ? Donc, on remplit le profil de l'animal, c'est ça ? On renseigne son caractère.
Tout à fait, c'est ça. En fait, il faut remplir le... Enfin, il y a une fiche descriptive pour la personne.
Oui, évidemment,
donc,
pour l'être humain.
Si elle peut accueillir des animaux, il peut uniquement se déplacer, quel animal, etc. Et puis, en contrepartie, effectivement, la fiche de l'animal, son comportement, s'il accepte ses congénères du même sexe ou pas, etc. etc.
Luc ?
Oui, alors trois petites questions rapides. La première, pour compléter ce que disait... Elisabeth, est-ce que vous ne pourriez pas faire un classement, un peu comme les hôtels, parce que là, c'est quand même très subjectif. Il faudrait peut-être mettre des critères plus objectifs.
Des notes, des évaluations
Des évaluations parce que là, ça reste quand même un petit peu subjectif. Et ma deuxième question, est-ce que vous avez des régions où ça marche mieux ou c'est réparti de façon équitable ?
Alors, pour répondre à la première question, effectivement, il y a un système de notation après chaque prestation. On peut à la fois noter la personne, mais même noter l'animal. Parce qu'on peut mentir dans le descriptif qu'il ait des troubles comportementaux ou autres. Mm-hmm. Donc, autant tout clarifier dès le départ. Et pour répondre à la deuxième question, au départ, on a fait un démarrage en douceur parce qu'on voulait vraiment adapter en fait, la plateforme aux vrais besoins de nos adhérents. Et donc, on s'est limité vraiment à la région parisienne. Et par exemple, on était quasiment que 500 personnes. Donc, on était vraiment enfermés et avec quasiment un peu plus de 100 gardes. Donc, ce qui prouve que c'est une petite communauté, mais qui est très, très active. Mmh. Et du coup, il y a eu quelques articles sur Internet. On marche vraiment du bouche à oreille.
Et là, ça va de mieux en mieux.
Ça a explosé. Effectivement, en deux mois, on a gagné plus de 2500 personnes.
Et vous avez dépassé la France. Je crois que vous êtes même en Belgique maintenant.
Exactement. Depuis le début de cette année, enfin, on a 3 ou 4 adhérents belges. Donc, c'est un début.
On a parlé des chats, on a parlé des chiens. Vous gardez ou vous faites garder tous les types d'animaux ?
Tout à fait. Après, effectivement, il faut avoir une certaine
c'est
compétence.
C'est bon pour votre serpent.
Exactement.
Voilà. Enfin, pour les serpents, effectivement, après...
Il y a les nouveaux animaux bien de sûr. Compagnie, donc c'est une vraie question.
Oui, mais il faut avoir une certaine compétence. Déjà, à mon sens, un serpent, il fait un peu peur, mais effectivement, tout
non,
ce qui est rongeur...
Il y a les nacs, bien sûr, les rongeurs.
Oui, ça, c'est ouvert à tous les animaux.
Luc, le
oui.
Sénégal.
Est-ce que vous pourriez envisager la garde à domicile ? C'est-à-dire, attention, je dis bien pas de... parce qu'il y a certains animaux préfèrent les chats, par exemple, rester chez eux, mais avoir des vrais professionnels au contact, parce que venir nourrir un chat, venir s'occuper d'animaux, il faut aussi que ça soit professionnel. Est-ce que vous avez envisagé ça vous partez 3 semaines en vacances ou 8 jours en vacances, que quelqu'un vienne, mais pas uniquement voir si tout va bien, s'occuper de l'animal, lui tenir compagnie au sens propre, le nourrir correctement. Parce que c'est aussi...
Pas le dépayser, venir pas directement dépayser, à domicile. Oui, est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est un service que vous proposez ?
Oui, tout à fait. En fait, ça existe. Quand on effectue une recherche, alors là, pour celui qui va nous rendre service, on choisit soit qu'ils seront à notre domicile, soit il nous dépose son animal et puis qu'on
d'accord, s'occupe. Les deux existent.
Voilà, exactement.
Ça s'appelle pabette.com. Merci beaucoup d'être venu nous
Merci
présenter cette solution aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1.
Et vous restez avec nous, bien sûr. On va plonger aujourd'hui à la découverte des innovations du secteur. Sur Europe 1, c'est la France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France Bouge. Ici, vous le savez, on aime découvrir des innovations. Et en ce moment, eh bien, le salon de la plongée ouvre ses portes à Paris. Et c'est un secteur qui attire de plus en plus de monde. Il y a entre 6 et 7 millions de pratiquants dans le monde, mais beaucoup moins de licenciés, forcément. Et c'est une activité qui demeure essentiellement masculine. Mais vous allez voir que ça se démocratise et que surtout, c'est un secteur qui innove pour justement pouvoir parler au plus grand nombre. Bonjour Franck Vautier.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de Calypse. Vous avez créé des combinaisons sur mesure à partir d'un logiciel 4D. Et pourtant au départ, alors ça n'était pas du tout, mais alors pas du tout votre métier. Racontez-moi comment on change de vie, puisque au départ vous étiez ingénieur biomédical.
De formation, oui. Et j'ai toujours travaillé dans le secteur médical. Et j'ai créé il y a plus de 20 ans, oui, une société de soins à domicile. Et au bout de 20 ans, pour différentes raisons, j'ai vendu cette société. Et puis, après l'avoir vendue, au bout de 6 mois, 9 mois, j'ai commencé à tourner en rond. Donc, il fallait que je refasse quelque chose. Soit recréer une structure, soit racheter une structure. Et étant plongeur, après c'est le hasard des discussions, des rencontres, j'ai décidé donc de créer une marque pour répondre à différents problèmes connus dans le domaine des combinaisons.
Oui, parce que vous êtes effectivement pratiquant depuis une vingtaine d'années, je crois.
Vous avez plus.
Vous avez débuté avec votre fils aussi.
Et j'ai attendu, oui, qu'il ait l'âge de passer son niveau 1 pour le passer.
C'est-à-dire 8 ans.
Oui.
Vous avez plongé aux quatre coins du monde et il y a une chose qui ne change pas ou presque pas, c'est la fameuse combi noire que doivent mettre les plongeurs.
Exactement. Enfin, noir jusqu'à présent.
Noir jusqu'à présent.
Voilà.
Mais vous vous êtes dit, peut-être qu'il faudrait amener un petit peu de gaieté dans tout ça.
Alors, il y avait effectivement deux réflexions. La première, c'est que quand vous plongez, que vous êtes sur un bateau, vous observez que, généralement, les plongeurs ont du mal à enfiler leur combinaison.
Oui.
Que, généralement, la combinaison n'est pas forcément très confortable. Et en plus, effectivement, elle est noire.
Oui.
Elle est noire, quelles que soient les marques, c'est toujours noir.
Et alors, vous trouvez qu'on ressemble à une otarie dans la combinaison noire, c'est ça ?
Pas vous ?
Sûrement. Mais en rose, je me demande à quoi je ressemblerai, parce que vous nous en avez amené une de combinaison rose. Vous
ouais.
avez donc travaillé la couleur et la matière.
Bon.
Comment est-ce que vous avez fait ?
La couleur, en fait, au tout début, il a fallu d'abord travailler le design. Donc, il a fallu trouver une styliste qui soit capable de nous sortir des modèles innovant. Donc, il fallait trouver une styliste qui n'a jamais pratiqué la plongée, qui ne savait pas ce que c'était qu'une combinaison de néoprène,
oui,
quel que soit le sport, pour qu'elle n'ait pas d'a priori. Et elle a réussi à nous sortir différents croquis, plusieurs croquis, que l'on a soumis à un pool de clients et de clientes, enfin, puisqu'on fait aussi des combinaisons pour hommes. Et c'est eux qui ont choisi tel design, que nous avons retenu. Et une fois que les designs ont été retenus, il a fallu choisir les couleurs. Et là, c'est pareil, c'était des séances de travail pour savoir quelle couleur vous voulez. Voilà. Et c'est vrai que le rose ou le fuchsia est évidemment ressorti. Et ce qui est amusant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fonction des pays, les couleurs choisies par les femmes ne sont pas forcément les mêmes. Et je me suis amusé à vous apporter celle-ci, qui est celle qui est le modèle qui est le plus commandé actuellement aux États-Unis.
Aux États-Unis, ouais. Le fuchsia, c'est
ouais.
vrai qu'il est magnifique. Vous créez sur mesure, parce que en fait, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que tout est fait en 4D et vous pouvez recréer un avatar du client, c'est-à-dire que vous vous mettez aux dimensions de la personne qui va entrer dans la combinaison. C'est aussi pour ça que c'est extrêmement flexible.
Alors, aux dimensions, oui, mais ça, il suffit de faire du sur mesure pour faire aux dimensions. Ce qui fait la caractéristique principale de nos combinaisons, c'est qu'effectivement, elles sont créées d'abord en 3D, c'est-à-dire en volume. Et à l'aide des mesures prises sur le client et de 3 photographies, nous arrivons à recréer l'avatar du client. C'est-à-dire qu'on va recréer votre avatar à vous, avec toutes vos caractéristiques morphologiques. Et c'est surtout très intéressant pour les femmes, puisque vous avez des morphologies toutes différentes.
Bien sûr.
Chez les hommes, globalement, mis à part un peu de ventre en fonction de l'âge ou des choses comme ça, ça reste assez standard. Chez les femmes, ce n'est pas le cas. Et donc, on arrive à recréer votre avatar. Et sur votre avatar, nous allons positionner les empiècements de la combinaison. Et lorsqu'ensuite, nous allons recoller les empiècements et les coudre, c'est-à-dire fabriquer la combinaison, nous allons avoir sur le cintre votre enveloppe corporelle. Et c'est ça qui rend la combinaison facile à porter.
À enfiler parce et que à vous, retirer.
Ben vous ne l'enfilez plus, vous vous glissez à l'intérieur. Et ça change tout.
Ça intéresse évidemment Luc le Sénécal. Hein,
Franck, votre aventure me passionne. Parce qu'au fait, dans votre vocabulaire, vous partez d'un élément très technique, mais vous utilisez design, styliste. Et je fais énormément de parallèles avec Saint-James. Saint-James, on est né d'un vêtement d'un pull marin, qui est un vêtement de protection en mer. Donc on a un point commun. Et maintenant, on est parti un peu dans la mode. On est, j'ai le sentiment que vous avez cette même approche. Et je pense que vous avez beaucoup d'avenir. Alors, est-ce que vous en vendez beaucoup? Est-ce que vous allez vous positionner dans le haut de gamme? Parce que du sur-mesure, c'est quand même quelque chose. Est-ce que c'est cher? Dites-en-nous un peu plus sur vos marchés, là, sur votre stratégie.
Sur le positionnement, oui, c'est, on pourrait dire, du haut de gamme. Parce qu'effectivement, le produit est plus cher qu'une combinaison standard fabriquée à Taïwan. Il faut savoir que toutes les combinaisons sont fabriquées dans la même usine à Taïwan.
Une combi comme celle-là, c'est 560, 600 euros, c'est ça?
Pour nous, oui.
Environ.
Fabriquée où?
À Montpellier.
En France? Oh, ouais. Super.
Ouais.
Alors, par contre, il faut qu'on précise que la matière, elle, ouais. elle est pas française.
Non. Le néoprène, on le trouve effectivement à Taïwan. Voilà. Pour l'essentiel, 90% du néoprène est fabriqué par par un fournisseur à Taïwan qui fabrique les combinaisons pour toutes les marques.
Mais la confection est faite à Montpellier.
Mais nous, on achète les plaques qui arrivent à Montpellier et
vous dessinez
et la coupe et la confection.
Ouais.
Vous avez aussi créé, développé des shorties, des maillots, un petit peu dans le même esprit.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand vous plongez au Mexique ou dans les mers chaudes, vous n'allez pas plonger avec une combinaison intégrale. Donc, on a créé des shorties. Et puis, alors on sort un peu du domaine de la plongée, mais nous avons créé des maillots...
Avec des diamants Swarovski, j'ai vu ça.
Des cristaux Swarovski.
Oui.
Oui, tout à fait. Et avec l'inspiration des premières James Bond Girls.
Oui.
Et voilà.
Là, c'est la mode, c'est la fashion. Là.
On a essayé, exactement. Donc en fait, les points de vente ne sont plus les magasins de plongée, c'est effectivement les magasins de mode.
Elisabeth, vous avez trouvé d'autres fabricants de combinaisons de plongée des
françaises
bien sûr.
Top Star, vous connaissez Top Star?
Oui.
Top Star, ça a 50 ans. C'est une histoire qui est née sur le bassin d'Arcachon et le fondateur de Top Star, à la base, était un chasseur sous-marin. Et il y a 50 ans, le fondateur, qui s'appelle Jackie, a fabriqué sa première combinaison pour se protéger du froid. Hein, ça part aussi un peu comme vous le disiez, Luc. Hein, on prend un textile pour une cause bien particulière et ensuite, on se dit que c'est possible pour... Là, c'était pour la protection thermique, donc pour le froid. Et il voit qu'il y a un intérêt particulier dans l'utilisation du néoprène. Et il met au point les combinaisons ensuite pour le commandant Cousteau. Et depuis, c'est toujours été fabriqué en Gironde. Ça cartonne et ça s'appelle Top Star.
Vous avez vu une évolution du marché. Nous, Français, on est positionnés comment sur ce marché de la combinaison par rapport à la concurrence?
Pas très bien.
Pas très bien, pourquoi?
C'est il y a des raisons, mais ça, c'est des raisons historiques sur qui pratique la plongée. L'approche sur ce produit est totalement différente, ne serait-ce qu'en Allemagne ou dans le reste de l'Europe, et surtout aux États-Unis ou à Hong Kong ou au Japon. C'est pas du tout la même approche.
On reste ensemble. On
Avec
continue
grand plaisir.
À parler plongée sous-marine aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1.
On a enfilé ou on s'est glissé dans la combi. On vous emmène sous l'eau maintenant. Il y a des paliers à respecter. O-Dive vous aide. C'est un capteur connecté pour personnaliser la décompression. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Quand on pratique la plongée sous-marine, il y a tout un tas de règles à connaître et à respecter. Or, beaucoup s'affranchissent de ces règles et il arrive que des accidents surviennent quand la procédure n'est pas respectée à la lettre. Bonjour Axel Barbeau.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien officier de la Marine nationale.
Absolument.
Et alors, quand vous avez quitté la Marine, vous aviez une idée en tête, créer votre entreprise, parce que justement, vous vous étiez aperçu que les accidents de décompression se multipliaient. Il faut dire que vous étiez plongeur.
Absolument.
Dans l'armée.
Absolument. Moi-même, j'étais plongeur des mineurs dans la Marine nationale. Alors, j'ai eu un passé de sous-marinier, puis plongeur des mineurs. Et en fait, j'étais notamment en charge de la sécurité des plongeurs pour la marine et pour les armées. Et c'est dans ce cadre-là qu'a germé le projet. Alors, peut-être le contexte, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? Alors, si on parle de la marine nationale, c'est 100 000 plongées par an. Et donc, nécessairement, c'est la problématique des accidents de décompression, qui est bien connue des plongeurs. Qu'est-ce que c'est que cette problématique ? C'est un plongeur, normalement, avant de revenir en surface, doit réaliser des paliers de décompression. Et bien que réalisant ces paliers de décompression à la lettre, donc sans faire d'erreur, il y a un certain nombre de personnes qui font ce qu'on appelle un accident de décompression. Un accident de décompression, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bulles de gaz qui se forment dans l'organisme du plongeur et qui peuvent créer un certain nombre de dégâts. Et alors, pourquoi ces accidents surviennent en dépit du respect des procédures ? Tout simplement parce que toutes les procédures ne sont pas adaptées à tous les plongeurs.
Donc vous vous dites, il faut développer un outil. C'est comme ça que naît Azote System et que vous mettez 8 ans à réaliser ce que j'ai dans la main, O-Dive.
Absolument.
Alors ça s'écrit O et plus loin D-I-V-E hein, pour la plongée.
Tout à fait.
Comment ça marche ? Il y a un capteur qu'on va aller placer sous la clavicule avant la plongée, c'est
absolument.
Ça ? Et qui va mesurer
après
quoi ?
Après la plongée. Alors en fait, c'est un capteur acoustique ultrasonore qui fonctionne par effet Doppler et puis qu'on vient positionner sous sa clavicule et on vient monitorer le flux veineux dans la veine sous-clavière.
Et
en fait,
ce
capteur, il va compter les bulles, tout simplement, après la plongée. Parce que le plongeur, une fois qu'il est en surface, éventuellement, il va faire des bulles. Et s'il y a beaucoup de bulles, ça veut dire, pour faire simple, que sa procédure de plongée était finalement peu adaptée à sa pratique. Et puis, à l'inverse, s'il y a beaucoup de bulles, c'est qu'elle n'était pas adaptée. Et donc, notre capteur va nous renseigner sur la situation du plongeur et on va pouvoir lui faire des recommandations en fonction de sa situation personnelle.
Donc, il va être noté, c'est ça, entre 0 et 100 ?
Voilà, c'est exactement ça.
Et on va lui dire, tu aurais dû plonger de telle et telle manière. Qu'est-ce qu'on peut corriger, par exemple ?
Il va recevoir un indice de qualité de sa procédure, entre 0 et 100, avec une zone rouge, une zone orange, une zone verte. Donc, autant que possible, essayons de rester dans la zone verte.
Dans le vert, oui.
Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il va pouvoir accéder à un simulateur qui va pouvoir lui donner des indications très précises sur la manière de faire évoluer sa pratique pour améliorer sa sécurité. Et donc, aujourd'hui, on estime, donc derrière ce système, il y a plus d'un million de plongées qui ont été analysées. Donc, c'est des bases de données énormes. Et on estime qu'avec ce système, aujourd'hui, on est en mesure d'améliorer la sécurité des plongeurs d'un facteur 10. Donc on n'est pas dans une innovation de cosmétique. C'est une vraie innovation de rupture. Et en fait, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps pour réaliser cette technologie.
Parce que ça y est, le capteur est sorti en 2019.
Absolument,
donc c'est
il
tout
est
récent.
Commercialisé depuis le mois de mai dernier. Et voilà, effectivement, c'est tout récent.
Notre coach, Luc Le Sénécal.
Ah, si j'ai bien compris, c'est un système qui vérifie a posteriori. Est-ce que vous pensez que dans le futur, vous pourriez développer quelque chose en instantané ? Je suis en train de plonger, j'ai bien compris que c'était la mesure des bulles. Ça serait peut-être
On cherche à se rapprocher de l'instantané dans le sens où aujourd'hui notre système va être capable de vous donner une indication si vous faites des plongées successives, par exemple, si vous faites une plongée après une première plongée, là notre système va pouvoir vous donner une indication. Mais il se trouve que physiologiquement, et c'est un phénomène physique, les bulles surviennent après la plongée. Donc on est bien obligé d'attendre après la plongée que ces bulles surviennent pour pouvoir analyser. Et en fait, après, ce qui nous intéresse finalement, c'est d'éviter les accidents. Et il se trouve que, on a besoin d'avoir une mesure qui est corrélée à ce niveau de bulle, donc on est obligé d'attendre après la plongée.
Voilà. Le prix ?
Alors le prix, il y a deux versions. Une version pour la plongée Air Nitrox, donc la plongée classique, qui est à 590 €. Et pour les plongeurs techniques, donc avec beaucoup d'options supplémentaires, on est à 790 €.
Alors, diffusé...
la version individuelle. Il y a une version aussi qui permet d'équiper les clubs de plongée pour que les clubs de plongée mettent le service à disposition des plongeurs.
150 déjà vendus, c'est ça, en 8 mois ?
C'est ça, dans plus de 15 pays. Et donc nous-mêmes, on a été surpris par l'ampleur du phénomène et le caractère international du phénomène.
Alors, puisqu'on est en pleine plongée, Elisabeth, on ne se rend peut-être pas compte, mais la plongée, c'est quand même beaucoup d'emplois.
On compte, on estime à 650 le nombre d'emplois permanent, hein, direct dans les centres de plongée en France. Mais il faut aussi ajouter les travailleurs indépendants qui travaillent notamment haute saison et pendant les week-ends pour environ 2200 clubs associatifs et 420 structures professionnelles.
On a parlé prix aussi. C'est quoi le prix aujourd'hui d'une plongée ?
Environ 45 €, équipement non fourni. 33-35 € entre plongeurs autonomes et le baptême, si vous le souhaitez, si vous souhaitez en faire un, coûte entre 60 et 70 €.
Et puis, vous avez trouvé aussi des expériences qui ont lieu dans le milieu sous-marin, parce que là, on est sous l'eau. Je crois qu'il y a pas mal de choses en ce moment qui sont en cours.
Oui, notamment avec l'expédition française Under the Pole, avec Emmanuel Perrier-Bardou et Guylain Bardou. Deux programmes scientifiques, dont le second consistait à mettre en place un habitat sous-marin pour vivre sous l'eau et étudier les récifs coralliens.
Vous avez eu déjà des premiers retours d'expérience de votre capteur,
Axel ? Ah oui, absolument, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 1000 utilisateurs de cet appareil. Donc, on a énormément de retours d'expérience. Et les retours d'expérience sont très favorables. Et aujourd'hui, il y a une véritable communauté qui s'est créée autour de ce produit. Et en fait, cette communauté, aujourd'hui, on interagit beaucoup avec elle pour le faire évoluer. Donc, c'est une richesse qui est absolument exceptionnelle pour faire progresser ce produit. Voilà.
Vous avez le sentiment que les choses évoluent au niveau technologique, justement, ces dernières années, dans ce monde de la plongée que vous connaissez bien ?
J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un virage qui a été pris au cours des 5 dernières années, et peut-être plus particulièrement ces 3 dernières années. Je pense que voilà, on a mis un petit peu de temps dans le domaine de la plongée à rentrer dans le nouveau millénaire, mais ça y est, il semblerait que le pli soit pris aujourd'hui. On voit pas mal d'innovations, donc oui.
Et il y en a déjà 3 autour de la table des innovations. On va continuer justement à plonger ensemble aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1.
Vous portez des lunettes et vous plongez. Et si vous pouviez avoir un masque à votre vue, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et quand on est passionné de plongée et opticien de métier, forcément, arrive un moment dans la vie où on a envie de faire rimer les deux. Bonjour Gilles Demetz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Demetz. Et ce que je viens de décrire, ça s'applique à vous, bien sûr, mais ça s'est appliqué aussi à votre père qui a créé la société en 1950. Il était dans l'équipe de France de nage à palme, plongeur professionnel et opticien. Et ce sont ses amis, en fait, qui, les premiers, lui ont dit « Tu ne pourrais pas créer une marque adaptée à notre vue ?» C'est ce qu'il a fait en 1951.
Tout à fait.
C'est comme ça que ça démarre.
Il a créé effectivement le premier masque de plongée avec verre correcteur suite à différentes demandes de ses petits camarades plongeurs qui avaient des problèmes de vue. Alors à l'époque, c'était effectivement un peu l'époque de Cousteau. C'était des masques hublots qui étaient ronds. Donc, il avait fait développer une sorte de face de lunettes qui ventousait à l'intérieur des masques. Bon, après, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des verres. Il y a eu le collage de verres sur le verre d'origine, et après le remplacement de verre d'origine par un verre optique. Et puis là, dernièrement, effectivement, une innovation, puisque jusqu'à maintenant, on utilisait le verre en matière minérale. Maintenant, on utilise, on va dire, du polycarbonate, qui permet surtout d'avoir un coût moindre.
Alors, il vous a transmis évidemment les deux passions, j'ai envie de dire. Hein. Et vous arrivez dans l'aventure dans les années 80, je crois, c'est
années ça ? Années 85, 87, oui.
Vous développez d'abord d'autres gammes et puis finalement, vous revenez aux premières amours.
Toujours aux premières amours. Effectivement, en fait, quand j'ai repris la société, il y avait les masques de plongée et la lunette de natation qu'il a créée aussi en 68 avec verre correcteur. Et suite à beaucoup de demandes en fait, d'opticiens, on a développé une multitude de lunettes pour la pratique de sport, pouvant être équipées de verres correcteurs.
Oui, parce qu'il a fait beaucoup de choses, votre père. Hein. Il avait aussi développé en parallèle le Subaqua.
Le Subaqua Club de Paris.
Exactement.
C'était un des premiers clubs de plongée de Paris.
Et aujourd'hui, vous êtes passé dans la nouvelle ère, on va dire. C'est-à-dire que vous essayez de faire changer les choses et vous nous avez amené un masque de plongée. Où effectivement on va venir clipser. Les verres correcteurs, c'est-à-dire que ce verre-là, il va être adapté à ma vue.
Oui.
Et ensuite, je vais pouvoir le poser sur mon masque.
Alors, tout à fait. Alors, adapté à votre vue, ce n'est pas du sur-mesure. Ce que l'on fait jusqu'à maintenant avec le verre minéral, on fait du complètement sur-mesure. Là, c'est, on va dire, des corrections pour la myopie, de moins 2 à moins 6, qui correspond à peu près à 80% des gens qui sont myopes, et aussi pour la presbytie. Donc la presbytie, c'est effectivement à partir d'un certain âge, environ 45 ans, on a des problèmes de pouvoir de près dans l'air, mais on l'a aussi dans l'eau. Et on a des organes de sécurité qui sont les ordinateurs, le manomètre, etc., qui nous permet effectivement de plonger dans toute sécurité. Et il faut les voir en vision de près, donc on a besoin aussi de la vision de près. Et on a fait ces verres-là sur ce masque-là.
Ça veut dire qu'on peut démonter, remonter le masque, c'est ça ?
On peut démonter, remonter, effectivement le prêter à quelqu'un qui n'en a pas besoin de verre correcteur, et puis remonter ces verres correcteurs tout de suite, en même pas 10 secondes, sur le masque.
Alors aujourd'hui, ces masques, vous les concevez à Villiers-sur-Marne, vous les faites fabriquer en revanche à Taïwan, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Pour quelle raison ? Il n'y a pas de moyen de faire fabriquer aujourd'hui ? Ici en France, c'est une question de matière ?
Alors, c'est une question de matière, c'est aussi malheureusement un peu une question de
coût. Et surtout ?
Voilà, aussi, surtout une question de coût. Et là, en fait, dans le développement de ce produit, qu'on a sorti il y a maintenant 4 mois, hein, lors du salon de l'optique qui s'est passé à Paris, un des premiers critères, c'était le coût. C'est-à-dire qu'on voulait en fait rendre accessible un masque de plongée avec verre correcteur pour aussi bien la personne qui débute, qui n'est pas encore certain de faire un plongeur confirmé, donc avoir un investissement moindre. Et puis, les accompagnants qui souvent... quand on part faire de la plongée dans différents pays, on est de temps en temps en couple ou entre amis, on est accompagnant et on peut faire que de la PMT, c'est-à-dire pas le même masque tuba, du snorkeling. Mm-hmm. Et malheureusement, quand on ne voit pas bien en dehors de l'eau, on ne voit pas bien aussi sous l'eau. Et là, ça permet un moindre coût puisque, on va dire à moins de 80 euros, on va pouvoir avoir un masque avec ces deux verres correcteurs.
Alors justement, les verres correcteurs, pour le coup, ça c'est français.
Oui, tout à fait.
C'est important pour... Alors,
voilà, tout à fait. Le verre correcteur, il est surfacé en France. Il est taillé en France et on fait bien sûr ça et on distribue à tous les opticiens en France et en Europe, bien sûr.
Je vois Luc Le Sénécal hocher de la tête.
Ça me rassure que vous fabriquiez au moins les verres en France. Comment ça se passe concrètement ? Vous venez avec votre ordonnance pour acheter votre masque, vous passez par quel créneau de distribution ? Il faut d'abord aller chez l'opticien.
Comment le particulier qui va faire ? Effectivement, il va chez son opticien avec une ordonnance ou avec ses lunettes, avec sa dernière correction. L'opticien a bien souvent des masques de présentation où le client peut venir avec son masque parce que des fois, on peut équiper le masque. 80% des masques sur le marché, on peut les équiper de verres correcteurs. Et quelle que soit la correction qu'il va avoir, qu'il soit myope, astigmate, presbyte, on va pouvoir effectivement lui rendre la vue sous l'eau. Voilà. Et au niveau des délais, on est, on va dire, entre 3-4 jours et à peu près une quinzaine de jours, suivant la complexité de la correction. Donc l'opticien, après, nous passe la commande.
Donc vous êtes diffusé à travers le...
À travers les 12 500 opticiens qu'il peut y avoir en France, y compris ceux qui sont en Europe aussi.
Elisabeth, le marché de la plongée aujourd'hui, on sait dire, je parlais tout à l'heure de 6-7 millions. Mais...
Oui, en France, on compte un peu plus de 300 000 plongeurs.
Et
mais pour vous donner une idée, aux États-Unis, ils sont 3 millions. Et sur le marché européen, il y a les 3 autres millions, il y a 3 millions de plongeurs. 75% des plongeurs européens choisissent de plonger en mer Méditerranée.
Oui, parce que la France possède quand même un domaine maritime intéressant et assez vaste pour plonger.
Oui, la France possède, grâce à ses îles, le deuxième domaine maritime mondial.
On me dit dans le casque, Laetitia me dit on est les meilleurs.
En tout cas, juste derrière les États-Unis, en termes de domaine maritime, l'ensemble est bordé par environ 18 000 km de côtes propices à la pratique de la plongée sous-marine.
Et puis tout à l'heure, on parlait des licenciés, des plongeurs amateurs. On a une idée des chiffres ? Les plongeurs sont licenciés ?
Oui, près de la moitié des plongeurs sont licenciés, notamment à la FFE2SM, hein, la Fédération officielle de plongée sous-marine. Et il y en a tout de même, il représente à peine 5% des licenciés, mais il y en a certains qui sont licenciés à la FSGT. C'est la Fédération Multisport. C'est la seule qui est habilitée à délivrer cette qualification de plongée en France.
Alors, parmi les plongeurs, je crois qu'il y a un certain prince régnier de Monaco, n'est-ce pas ?
Ouais,
n'est-ce pas, Gilles de Metz ? Je crois que vous avez une anecdote avec lui.
Oui, il devait y avoir à peu près 2-3 ans. Pierre Frolla, qui est un champion d'apnée, champion du monde que beaucoup de gens connaissent, et le plongeur, on va dire, officiel, qui plonge avec le prince Rainier. Il est venu nous voir, en fait, sur notre stand, au salon de la plongée, en disant « je suis très embêté, parce que chaque fois que je fais plonger notre prince Rainier, il ne voit rien. Mm-hmm. » Et quand on remonte de la plongée, « est-ce que tu as vu ça ?»« Non, je n'ai rien vu. » Donc il m'a dit « est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Bien sûr qu'on peut faire quelque chose, il est myope, il est encore myope, et presbyte. Et on l'a équipé avec un masque avec des verres correcteurs. Il est absolument adorable puisqu'il nous a même envoyé une petite lettre de remerciement. Enfin, j'ai découvert les fonds sous-marins que je n'ai pas pu découvrir jusqu'à maintenant.
Voilà. Et puis il y a de belles choses à voir hein, du côté de Monaco, bien sûr. Vous nous disiez d'ailleurs, parce qu'on parlait tout à l'heure des combinaisons, vous nous disiez que certains plongeurs, notamment Elisabeth, il faisait référence, je suis en train de chercher le nom de l'expédition dont on a parlé tout à l'heure.
Under the Pole,
qui plonge avec vos plongées, vos combinaisons.
Exactement. Tout à fait, c'est vrai.
Alors, je complète en disant qu'en fait, Azote Systèmes a accompagné toute l'équipe Under the Pole. Et en fait, nous, capteurs ou dive, on monitorait Guylain Bardou, Emmanuel, toute l'équipe Under the Pole pendant de nombreuses semaines, et avec des résultats absolument passionnants qui vont être publiés prochainement.
Luc Le Sénécal, notre coach.
Tous les trois, là, dans votre secteur, vous avez aussi vos produits peuvent sortir aussi du secteur de la plongée. Et je pensais, parce que je crois que vous avez fait également des lunettes pour le ski, des masques pour les motos, etc. C'est ça, c'est...
Alors, nous, en fait, on a créé en fait tous les sports. Enfin, quand je dis tous les sports, toutes les lunettes pouvant effectivement s'adapter au sport. Il n'y a que les sports de combat que l'on peut pas, avec lesquels on ne peut pas avoir des lunettes, malheureusement.
J'ai rarement vu de combattants avec des lunettes.
Après, effectivement, un des sports les plus pratiqués, c'est la lunette de natation. C'est la natation, donc on a effectivement créé la lunette de natation il y a très longtemps. On a essayé de la démocratiser maintenant avec des prix relativement accessibles avec verre correcteur, parce qu'il y a à peu près 15 millions de Français qui pratiquent la natation. Donc c'est aussi...
Vous faites 10 000 masques de plongée par an, c'est
à
ça
peu
à peu près.
10 000 masques avec verre correcteur, oui.
Oui, et en 2019, vous avez véritablement connu une belle croissance, parce que 31% de progression, c'est quand même un très beau chiffre. Vous avez le sentiment que voilà, il y a de plus en plus effectivement de surmesure qui est demandée par le public.
Il y a de plus en plus de surmesure. En même temps, en France, la population française est très sportive parce qu'il y a 64% des Français pratiquent au moins une activité sportive une fois par an. 60% aussi des Français portent des lunettes. Donc notre activité concerne énormément de personnes. Et je pense qu'ils prennent de plus en plus conscience à travers aussi la communication, parce qu'on essaye de communiquer de plus en plus et de faire connaître nos produits, qu'une lunette de natation, un masque de plongée, ça ne vaut pas aussi cher que ça. Et c'est quand même vraiment pratique pour la pratique de son sport, pour être content et pratiquer correctement.
On a sur Twitter une question de notre fidèle auditeur, Marc, évidemment.
Oui, hashtag repin, qui nous dit la sécurité forcément omniprésente dans la pratique de la plongée. Qui contrôle la fiabilité de vos innovations?
Ah, bonne question. Qui veut répondre? Axel Barbeau.
Pour ce qui nous concerne, en fait, donc la technologie, elle a un marquage CE. Donc c'est tout simplement une auto-certification. Alors après, cette auto-certification, elle se fait dans un domaine réglementaire qui est bien précis. Et donc ça, ce sont des laboratoires qui vont contrôler les performances qu'on annonce. Donc, mais la responsabilité de synthèse de la certification, c'est l'entreprise qui programme son marquage CE.
Franck Gauthier.
Pour les combinaisons de plongée, là c'est un peu plus cadré. C'est, la combinaison en fait, est destinée à vous protéger du froid. Donc c'est un équipement de protection individuelle et pour être vendu en France, il faut que nous ayons ce marquage CE qui est délivré par un organisme qui va tester les combinaisons, tester le néoprène, tester le pouvoir isolant du néoprène.
Idem, Gilles Demas.
Exactement pareil, avec effectivement un ou deux laboratoires en France qui peuvent faire ce type de test avec des résistances au choc, avec la qualité de l'optique, la qualité... du verre, voilà, c'est exactement la même chose et ça répond bien sûr à une norme particulière.
On a une question qui nous est arrivée au 39-21. On nous demande si sur les combinaisons, vous pouvez par exemple travailler sur des combinaisons pour triathlètes qui n'ont pas forcément les mêmes besoins.
Alors, on pourrait ou on pourra. Ce qui va changer, c'est la densité du néoprène, l'épaisseur du néoprène et donc les machines que l'on va utiliser pour assembler la combinaison. Aujourd'hui, nous ne sommes pas équipés pour faire des combinaisons de néoprène, mais effectivement, la demande est là et dans l'avenir, on peut imaginer que rapidement, nous allons le faire.
Je précise que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, parce que j'ai dit Régnier, c'est Albert, évidemment.
Hein. Pensez,
voilà,
oui.
Mais bon, voilà. Plain, juste Monaco. Pour replacer, voilà.
J'ai eu un coup de fil de Monaco.
Non, mais je précise, je me suis aperçue que j'avais effectivement. Non, vous savez, tout le monde veille. Hein, j'ai un petit message, pas de Monaco, mais j'ai un petit message pour me dire attention, Régnier, il faut préciser, donc je précise. Et je voudrais qu'on termine, puisqu'on est sous l'eau, avec une appli qui protège les fonds marins des ancrages des bateaux, Elisabeth.
Elle s'appelle Donia, D-O-N-I-A. C'est une appli qui permet aux plongeurs d'échanger des informations tout en contribuant à protéger les écosystèmes les plus sensibles, hein, par exemple comme les herbiers sous-marins. Cette appli a obtenu des récompenses et elle figurait aussi parmi les finalistes du prix européen 2014 de l'environnement, DONIA, D-O-N-I-A.
Merci à tous les trois d'être venus
merci,
nous
merci
faire
à vous,
rêver
merci à vous,
aujourd'hui
merci.
Sur Europe 1.